secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor.
Les racines du ciel. Une émission de Leïli Anvar avec la participation de Frédéric Lenoir. Réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Thierry Beauchamp, avec aujourd'hui à la prise de son, Johan Richard Dufour. Aujourd'hui, à l'occasion de la Toussaint, nous sommes avec Gabriel Ringlet pour parler de l'accompagnement spirituel de la mort. Gabriel Ringlet, vous êtes théologien et prêtre, membre de l'Académie royale de Belgique. Vous avez été longtemps professeur et vice-recteur de la prestigieuse université de Louvain-la-Neuve. Très présent dans les médias en Belgique, mais aussi un peu en France, vous êtes connu pour vos prises de position humanistes et progressistes, tout en restant profondément chrétienne. Mais vous êtes aussi écrivain dans le sens plein du terme et vous avez publié une vingtaine d'ouvrages, parmi lesquels on peut citer « L'évangile d'un libre penseur » chez Albin Michel, qui a obtenu le prix des libraires religieux, et « Ceci est ton corps », toujours chez Albin Michel en 2008, qui a obtenu le prix des écrivains croyants. Peut-être que les auditeurs des premières années des Racines du Ciel se souviennent, d'ailleurs, de cette émission bouleversante où vous étiez venu nous parler de ce très beau livre, donc « Ceci est ton corps », dans lequel vous racontez l'histoire d'un accompagnement tout à fait singulier. À la suite de cette publication, vous avez reçu d'innombrables courriers et vous avez été sollicité de plus en plus sur les questions de fin de vie et d'accompagnement de la mort, mais aussi de l'euthanasie. Sujet délicat si l'on est, surtout dans le cadre chrétien qui est le vôtre. Et vous publiez aujourd'hui « Vous me coucherez nu sur la terre nue, l'accompagnement spirituel jusqu'à l'euthanasie » chez Albin Michel. Dans ce livre, vous faites part de ces témoignages que vos lecteurs ont partagés avec vous et des aventures humaines que vous avez vécues dans cette singulière fonction qui est devenue la vôtre, à votre corps acceptant, je dirais. Commençons donc, si vous le voulez bien, par le commencement, c'est-à-dire la suite de cette première publication, « Ceci est mon corps », les circonstances de l'écriture de ce nouveau livre sur l'accompagnement et comment... Vous êtes entré en fait dans une démarche qui a grandi avec le temps.
C'est tout à fait vrai que je n'attendais pas, moi, ce courrier fou après « Ceci est ton corps », où j'accompagnais là une femme qui m'était très très proche, avec qui j'avais vécu des choses importantes, qui dirigeait le prieuré que j'anime aujourd'hui avec moi et avec toute une équipe. Alors, que pendant quelques semaines, pendant quelques mois, il y ait des centaines de lettres, passent encore. Mais aujourd'hui, 8 ans après, le courrier continue. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment répondre? J'ai tenté chaque fois de répondre à chacun, une lettre, enfin une page, 2 pages. Mais j'éprouvais vraiment le besoin d'écrire un livre qui aille un peu plus loin et qui rende compte d'histoires aussi bouleversantes que celle-là. Et que des lecteurs m'ont confié, et donc vous me coucherez nu sur la terre nue, c'est vraiment un prolongement de « Ceci est ton corps », mais un élargissement aussi pour vraiment répondre aux lecteurs qui m'ont fait signe et qui m'ont tellement bouleversé, qui m'ont aussi beaucoup porté en fait.
Oui, et alors justement ce titre « Vous me coucherez nu sur la terre nue », c'est une citation de saint François d'Assise. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les circonstances dans lesquelles François d'Assise a dit cette phrase si belle et que vous reprenez tout au long en fait du livre comme une sorte de métaphore qui habite toutes les expériences?
Mais dans la vie de François d'Assise, il se dénude à 3 reprises. Deux sont certaines, si j'ose dire. La première, évidemment, c'est quand il dépose tous ses habits aux pieds de l'évêque devant son père. Quel dénuement! Et l'évêque, quelle magnifique réaction il a en prenant François nu sous sa cape, c'est-à-dire qu'il va le protéger. La deuxième fois, c'est quand il envoie son petit frère Ruffin pour aller secouer les habitants d'Assise. Et il lui dit « tu dois prêcher nu ». Mais il est terrorisé, le petit frère, évidemment. Et François avec recul, est tellement marqué par ce qu'il vient d'exiger, par sa sévérité, qu'il va lui-même se dénuder pour aller prêcher à Assise. Est-ce vrai? Les sources sont moins certaines, mais ce qui est alors tout à fait solide, c'est au moment de la mort, ses frères, sa sœur de toujours, Jacqueline, est aussi tout près de lui et il va demander qu'on le mette nu sur la terre nue. Et ce qui est très très beau, c'est qu'il dit « le temps de marcher un mille ». Lentement, parce qu'après, il va revêtir la bure que Jacqueline lui a confectionnée. Et il va aussi toucher simplement, légèrement, quelques-uns des gâteaux, les fameuses franchipanes qu'elle a fait pour lui, parce qu'il aimait tellement cette petite pâtisserie. Moi, j'aime beaucoup que les grands saints soient si sobres au moment où ils vont rejoindre leur terre-mère, finalement. C'est très, très amérindien, hein, François. Mmh. C'est retrouver le sol, retrouver la terre, être nu dans la terre nue. C'est ce que moi, je souhaite de toutes mes forces pour moi-même. Si on pouvait me déposer nu dans la terre. J'ai toujours aimé cette tradition monastique. Malheureusement, notre société, un peu hygiéniste, veut que nous ayons un cercueil, comme c'est dommage.
Oui, alors effectivement, d'ailleurs dans votre livre, il y a deux métaphores en réalité qui traversent comme ça tous les chapitres. L'une est la métaphore précisément du vêtement et du dévêtement que vous associez à ce travail d'accompagnement des morts, à la fois d'accompagnement de ceux qui sont à côté d'eux et aussi le travail que chaque agonisant finalement fait avec lui-même, mais aussi la métaphore végétale, l'idée que la terre est porteuse et féconde d'arbres et de fleurs que vous évoquez avec cette plume poétique qui vous caractérise et que j'aime tant. Donc c'est vrai que vous me coucherez nu sur la terre nue, en fait, réunit ces deux métaphores, la métaphore de la terre, qui est la chose la plus primordiale, la plus originelle, et la métaphore du vêtement, qui est aussi une construction humaine.
C'est tout à fait vrai, vous dites ça admirablement, et si j'ai une telle admiration pour François d'Assise, c'est parce qu'à la fois il est très très concret, mais que dans ce concret, dans cette manière dont lui s'est dépouillé, dont lui a touché la terre très très physiquement, il a aussi, sur ce concret-là, une parole poétique qui permet de mieux entrer encore dans cette terre, si j'ose dire. C'est un peu ce que fait aussi ce merveilleux moine de Landévennec, hein, Gilles Baudry, qui dit « Tu seras rendu à ta terre promise ». C'est beau, hein, que nous ayons chacune, chacun, j'en suis absolument convaincu, hein, que nous soyons croyants ou non d'ailleurs, que nous ayons chacune, chacun une terre promise. Où est-elle? Comment la rejoint-elle? C'est un peu ce que François d'Assise nous propose comme chemin.
Alors, c'est un peu, maintenant que vous parlez de la terre promise, une fois qu'on est porté en terre, on va commencer un peu à l'envers, puisque finalement c'est la fin de votre livre qui parle de ça, mais c'est pas grave, après tout, puisque vous expliquez au fond que toutes ces expériences que vous avez eues d'accompagnement vous ont absolument convaincu. Et peut-être aussi une expérience intérieure vous avez médité beaucoup sur cette question, vous a convaincu que la mort est une naissance et que la terre-mère est une sorte de matrice de laquelle on va renaître. Mais vous l'entendez pas dans le sens classique de la résurrection du terme.
Mmh. C'est un véritable accouchement, hein. Que ce soit au début ou que ce soit à la fin, il y a toujours une terre à rejoindre, une terre sur laquelle on va vivre aussi longtemps que possible, peut-être, une terre que l'on va enfin rejoindre, peut-être pour un autre chemin, pour une autre naissance. Et donc, ne pas séparer les deux et dire qu'il y a là un même accouchement, ça m'a toujours beaucoup, beaucoup bouleversé.
Oui, d'une certaine façon, en fait, vous souscrivez à cette idée que par exemple, les Indiens ne disent pas que le contraire de la mort, c'est la vie, mais que le contraire de la mort, en fait, c'est la naissance. Donc,
c'est très juste,
tout cela englobe, est inclus plutôt dans la vie elle-même.
J'aime beaucoup, beaucoup cette démarche des Indiens. C'est une démarche fondamentale qui me rejoint de manière très, très sensuelle. Mon Dieu, comme j'aime que devant ces grandes questions, nous ayons vraiment à cœur de faire que tous les sens s'expriment. Et là, moi, je le dis comme prêtre, comme chrétien, que j'ai à aller chercher dans d'autres traditions cette magnifique manière de sentir, de toucher, de voir, de respirer, de goûter. C'est tout à fait fondamental. Et en soins palliatifs aujourd'hui, je ne cesse de travailler sur tous les sens.
Oui, et on va y revenir à cette question de la présence du corps, juste puisque nous parlons de la mort comme naissance. Vous avez quand même une approche, si j'ose dire, pas très catholique, de la question de la résurrection.
Non, je l'entends avec beaucoup d'humour.
Voilà, c'est-à-dire que vous parlez de la résurrection, pas du tout dans les termes classiques dans lesquels on parle. C'est-à-dire, vous avez une interprétation de cette question de l'immortalité de l'âme et de la résurrection, qui est un tout petit peu, sinon, elle n'est pas contraire, mais disons qu'elle est un peu différente de la manière dont l'Église habituellement nous présente la chose.
Écoutez, moi je ne fais jamais, mais je dis ça avec un clin d'œil, hein, oui. Je ne fais jamais que m'appuyer sur saint Paul. Je dis dans mon livre que saint Paul balbutie et que ça me réjouit beaucoup, que lui-même cherche des images, et que d'ailleurs les grands textes de saint Paul ne sont que des images pour dire comment parler de cette grande traversée-là. Mais ce qui m'a finalement le plus touché, j'aime beaucoup Rodin, j'aime beaucoup Camille Claudel, j'aime beaucoup Rodin. Et donc, quand je vois, j'ai une magnifique reproduction du baiser de Rodin dans mon cher prieuré. Et quand je regarde cette statue, je me dis à quel moment, quand il était en train de travailler, là, avec son marteau, avec sa gradine, qu'il était en train d'avoir des éclats dans sa pierre, à quel moment le baiser est-il né? Mais c'est exactement la même chose que dans nos propres existences. Nous vivons, mais à quel moment devenons-nous, entre guillemets, je ne sais pas comment dire, immortels? À quel moment entrons-nous dans un au-delà? Mais ça commence dès maintenant. C'est un chemin qui ne s'arrête jamais. Hein, je cite Guillevy, qu'il y aura toujours à ne pas s'arrêter. Ça, c'est vraiment ma conviction fondamentale. Le corps s'arrête, mais il ne s'arrête pas tout à fait. Dans ma tradition sémitique, le corps continue, nous sommes corps et âmes. Et d'ailleurs, nefesh en hébreu est un terme très très vaste.
Et donc, très beau.
Et très beau. Et donc j'aime beaucoup, là encore nous sommes en train de parler d'accouchement, j'aime beaucoup dire que cette résurrection, il faut peut-être la poser tout autrement, et surtout la poser dès maintenant. Je suis très 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 marqué, évidemment, par l'œuvre de Jean Sullivan, mon romancier fétiche, qui disait « Il y a des ressuscités parmi nous, mais nous ne les remarquons pas. Heureusement, disait-il. » C'est-à-dire des hommes et des femmes de tous les jours qui ont une générosité telle qu'ils ont déjà franchi la frontière avant de mourir. Alors, ce qui va se passer après, c'est une question tout à fait secondaire, s'ils sont vivants avant. Et Maurice Zindel, qui est quand même prêtre catholique, qui a prêché la retraite de Paul VI, et qui dit « Si nous ne sommes pas vivants au moment de notre mort, nous ne le serons jamais », il a tout dit. Et ce que je vis comme expérience concrète tous les jours en soins palliatifs, c'est de faire en sorte que ceux que nous accompagnons soient vivants jusqu'au bout, avant la mort.
Et c'est d'ailleurs le fil rouge, en fait, de tout votre travail, c'est d'unir ce que vous appelez là-haut en bas, en oui. fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une dichotomie entre là-haut et là-bas, entre le
vrai.
Corps et l'âme, mais véritablement, et ça c'est aussi très indien, étrangement, bien que vous soyez un prêtre catholique, c'est-à-dire d'arriver à cette situation de ce que les Indiens appellent, les hindouistes en tout cas, appellent la non-dualité.
C'est très vrai. C'est très très vrai. Et je ne peux plus séparer, moi, là-haut, en bas. Et quand je suis dans l'en bas, dans l'ici, mais c'est Rilke, là, hein, je veux en faire de l'au-delà, avec de l'ici de la souffrance, mais aussi l'ici de la joie. Comment est-ce que je peux porter cette souffrance, cette joie, un peu plus loin? C'est bien cela, faire de l'en bas, de l'en haut.
Et je ne peux pas résister au plaisir de vous citer, en fait, parce que, comme je le disais, ce livre que vous avez écrit, Gabriel Ringlet, « Vous me coucherez nu sur la terre nue », c'est une sorte de poème. C'est vrai que ça se présente un peu comme un essai, mais en même temps, vous entrez en poésie, vos mots deviennent...
J'aime beaucoup ce que vous dites là, parce que tout le monde ne le souligne pas. Et vous avez tout à fait raison, j'ai voulu écrire un grand poème, en fait.
Eh bien, je vais en donner la preuve à nos auditeurs, puisque justement sur ce « là-haut en bas », expression que j'aime beaucoup, écrit « là-haut-en bas », vous écrivez « Que quelqu'un veille là-haut, je le crois. parce que je crois que là-haut est en bas. Là-haut, en bas, quelqu'un s'est fait chair en moi, faiblesse en moi, fatigue en moi, révolte en moi, bonté en moi. Là-haut, en bas, quelqu'un s'est mêlé au périssable et même au pitoyable. Là-haut, en bas, quelqu'un a été transpercé pour que ma souffrance passe par les trous de ses blessures, me dit Sylvie Germain. Là-haut, en bas, quelqu'un a été violé, en même temps que moi, aussi longtemps que moi, peau de ma peau, brisure de ma brisure. Là-haut, en bas, quelqu'un veille sur moi, parce que ce qui s'écrit dans la matière d'une femme s'écrit aussi dans la matière de Dieu.
Mmh.
Gabriel Ringlet, ce là-haut en bas, et qui vous a aussi été inspiré par Sylvie Germain, que vous aimez beaucoup,
oui,
et que vous citez souvent.
Oui, j'aime beaucoup Sylvie, je l'ai reçue à l'Académie de Belgique, et ici, je parle d'une femme qui m'a évidemment bouleversée. Elle est violée quand elle est toute petite fille, à 7 ans, elle va être violée par son père pendant de très très nombreuses années, elle vient me voir, et elle me dit « Donnez-moi encore une bonne raison d'espérer, donnez-moi encore une bonne raison de croire que la famille a un sens. » Et cette femme complètement laminée, son père est encore vivant aujourd'hui, elle est la seule de la famille à aller dans la maison où il est en train de vivre ses vieux jours. Elle va encore se promener avec lui dans le parc en le prenant sous son bras. Je prétends que la sainteté est quotidienne, que la sainteté, elle est toute proche de nous. Alors que cette femme m'a dit, mais je fais simplement ça par sens de l'humanité. Je ne veux pas qu'il meure comme un chien. Mais elle est déjà là-haut, en bas, cette femme.
Oui, et cette femme, elle est venue vous parler parce que, alors on va arriver à ce sujet, parce qu'elle avait envie de mourir.
Oui, tout à fait.
Et vous avez été... par cette femme, par beaucoup d'autres cas que vous racontez dans le livre, qui sont des cas incroyablement bouleversants, il faut le dire, à cette demande qui est très étrange de la part, enfin c'est très étrange que quelqu'un vienne demander à un prêtre presque l'autorisation d'entrer dans ce désir d'euthanasie.
Oui, mais je suis confronté à cela tout le temps et de plus en plus. Vous imaginez que je ne m'y attendais pas.
Oui.
Tout ce que j'ai écrit porte sur la fragilité, mais sur la fragilité non pas dans les nuages, hein, sur le fait que nous sommes toutes et tous très très fragiles et que la fragilité est grande, j'en ai fait l'éloge, et que même quelqu'un de très diminué, c'est ça l'histoire de cet ami que j'ai accompagné, qui a perdu 5 organes vitaux, qui est vraiment dans l'extrême dépouillement et que je trouve très 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 grande. Donc tout mon chemin consiste à dire que la vie est grande même quand elle est extraordinairement fragile. Et voilà que des médecins me demandent d'accompagner cette demande d'euthanasie. Je ne m'y attendais pas du tout. C'est ce que j'appelle être appelé à plusieurs reprises dans l'existence. Et de fait, je ne cesse aujourd'hui, parce que ça continue de plus belle. Hein.
J'imagine que ça va continuer encore de plus belle.
Et le livre qui est sorti depuis quelques semaines seulement ne cesse de m'appeler, de m'appeler, de m'appeler, de m'appeler, mais dans des familles très concrètes que je ne connais pas. Hein. Je n'imaginais pas un tel déferlement. Et ce que j'essaye d'entendre, c'est qu'il y a une grande souffrance d'une part, mais aussi une grande interrogation spirituelle dans celles et ceux qui veulent en finir. Et ce que nous discutons, ce que nous partageons ensemble, ça me conduit très très loin, ça me conduit très très loin dans mes terres intérieures. Et donc je ne suis plus capable de n'être pas plein de tendresse, plein de bonté, plein de nuances. Et tout mon livre est un plaidoyer pour que ces appels-là, on les entende avec délicatesse. Je ne juge pas, je ne fais aucune idéologie, je souhaite simplement que l'on accompagne concrètement cette souffrance-là qui est là et qui m'est proposée avec toute son interrogation spirituelle. Comment n'être pas présent à ce moment-là?
Oui, et d'ailleurs c'est ce qu'il y a de très fort dans ce livre, c'est que jamais vous ne jugez alors que vous êtes un prêtre catholique,
oui,
et que la position de l'Église sur la question de l'euthanasie est relativement claire. Mm-hmm. Normalement, vous devriez leur dire, mais non, il ne faut pas faire ça. Si vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas demander l'euthanasie. Vous ne dites jamais cela. Vous avez ce respect aussi, même chez ceux qui sont très chrétiens et qui se sentent coupables d'avoir ces idées-là.
C'est vrai.
Vous avez un énorme respect au fond de leur souffrance et vous la comprenez. C'est pour ça que vous sortez presque du dogme, mais étrangement, vous y restez quand même.
C'est magnifique ce que vous dites là, parce que c'est tout à fait vrai. D'une part, c'est l'évangile qui me conduit. Et que je sache, il n'y a pas un verset dans l'évangile où Jésus dise « Cette souffrance-là, vous ne pouvez pas l'accompagner ». Donc qu'on me dise, qu'on me montre quel est le verset où il y a une souffrance qui doit rester en l'état. Ça n'existe pas. La deuxième chose, je veux rester très proche de mon Église. Et donc ce livre, je l'ai dédicacé à chaque évêque, une dédicace extrêmement personnelle, en lui disant « J'ai lu tout ce que vous avez écrit, je veux l'entendre, je veux prendre vos arguments au sérieux, il me pose quelquefois question, je voudrais bien que vous m'entendiez aussi, est-ce que vous allez me lire avec sympathie ? Et est-ce que nous pouvons en discuter, en privé si vous préférez, mais je préférerais en public, car ça nous ferait tous grandir. » Et plusieurs évêques m'ont déjà répondu en Belgique. Je vais débattre notamment publiquement avec mon évêque, l'évêque de Liège. Et ça, c'est peut-être un des plus grands cadeaux qui me soit fait depuis la sortie de ce livre. C'est qu'en tout cas, une partie de l'Église hiérarchique a entendu cet appel et comprend qu'on ne peut pas idéologiser sur des questions comme celle-là.
J'avais un ami qui me disait toujours, il faut faire le petit bouchon au gré de l'eau. Chacun fait sa vie comme il peut, et la vie fait de vous ce qu'elle veut, ce qu'elle veut, ce qu'elle veut. À quoi bon se casser, se pousser, à quoi bon? Les soucis, ça vieillit, les éléphants. Il vaut mieux être deux dans un lit trop étroit que tout seul dans un lit à colonne ou bien trois. Des dessous noirs en dentelle, c'est troublant, mais encore faut-il quelqu'un dedans. Des cheveux blancs qui folâtrent, c'est charmant, mais ça ne refait pas un printemps. J'avais un ami qui me disait toujours, il faut faire le petit bouchon au gré de l'eau. Chacun fait sa vie comme il peut, et la vie fait de vous ce qu'elle veut, ce qu'elle veut, ce qu'elle veut. Je préfère être un petit poisson dans mon ruisseau qu'un très gros cachalot hors de l'eau. J'aime mieux être au chaud dans ma petite peau à moi que coucher sous la terre et qu'on parle de moi.
France Culture, les racines du ciel, Lélie Onvar.
Je le dis dans le livre, et les médecins m'ont demandé de mettre au point, je n'ose pas dire une liturgie, mais en tout cas un rite, un rituel, où au moment de l'acte d'euthanasie, et où la famille, quand elle veut être là, est là, où l'équipe médicale, bien sûr, les infirmières, les bénévoles, les médecins sont là, et moi-même, que ce ne soit pas qu'un geste technique, mais que dans ce geste, qui est un geste de transgression, je le
oui,
dis dans le livre,
avec force,
extrêmement
oui.
clairement, que l'on puisse grandir dans cette transgression et que chacun de ceux qui sont acteurs puisse se sentir plus grand au-delà du fait que nous posons un acte très très grave. Et ce qui me touche encore plus peut-être, c'est que pour ce geste-là, je suis appelé aussi bien du côté de la laïcité, au sens philosophique du terme, que du côté catholique. Et donc, la même interrogation fondamentale se pose de part et d'autre, et des médecins d'hôpitaux tout à fait non confessionnels, tout à fait publics, catholiques se posent les mêmes questions et disent « pouvons-nous parler de rituels ensemble ?» Et ça, ça peut vouloir dire que quelque chose, et quelque chose de très très positif, se passe dans notre société, là où on veut bien se respecter un tout petit peu.
Et pas seulement d'ailleurs des médecins laïcs, mais vous avez aussi des amis, alors sinon athées, au moins agnostiques, enfin des gens qui ne sont pas croyants, qui s'affirment non-croyants, qui vous ont demandé cet accompagnement, cette célébration, et y compris, ils vous ont demandé de célébrer, je pense en particulier à votre ami médecin, prix Nobel.
Christian de Duve, voilà, prix Nobel de médecine, oui.
Qui vous demande de célébrer aussi une sorte de messe laïque, si je puis dire.
Oui, c'est vrai, liturgie laïque en tout cas.
Liturgie laïque, voilà.
C'est assez extraordinaire, hein, un prix Nobel de médecine connu dans le monde entier, que j'ai accompagné pendant 5 ans sur ces questions-là, et qui me dit, il a demandé l'euthanasie, nous en avons beaucoup, beaucoup, beaucoup discuté, et malgré cette demande, ou à travers cette demande, il me dit, est-ce que tu veux bien célébrer une funérailles dans une église? Parce que pour moi, ce lieu-là est fondamental. Tu trouveras à mêler poésie et évangile, parce que j'adhère aux deux. Et ce n'est pas parce que je suis non-croyant que je ne suis pas bouleversé par la parole évangélique, que je ne suis pas bouleversé par la parole poétique. Et de toute façon, le public de ma propre famille est pluraliste, essaie de construire une liturgie qui parle à tous de manière en quelque sorte transversale. Et donc, C'est quelque chose qui m'a énormément touché, et ce qui me fait peut-être le plus plaisir, et qui est une vraie surprise, c'est que beaucoup de prêtres m'ont écrit en disant « nous sommes de plus en plus confrontés à cette question ». Des gens non-croyants, des gens hors église, des gens hors paroisse se demandent comment célébrer quelque chose d'essentiel qui leur advient, et il n'y a pas de lieu pour cela. Moi, je ne demanderais pas mieux, hein, que la laïcité ait de très très beaux lieux où elle puisse aussi célébrer. Parce que le rite, c'est une question anthropologique, ce n'est pas une question d'abord religieuse. Donc tout le monde doit célébrer dans l'existence. Mais pour le moment, il n'y a que les églises qui s'y prêtent vraiment. Et moi, dans ma propre église, je le fais, dans mon prieuré, c'est qu'elle puisse être mixte. Et que des non-croyants qui veulent venir dans mon église, même sans moi,
oui,
puissent s'y sentir pleinement accueillis parce qu'ils disent que là, ils vont vivre quelque chose d'essentiel. Pourquoi pas ?
Oui, c'est très, très beau que vous disiez qu'ils vont vivre quelque chose d'essentiel alors que ça se passe après leur mort,
oui,
en réalité. Et en vous écoutant, je pensais, juste quand vous parliez comme ça de l'Église, je me disais finalement peut-être que l'Église est aussi comme la Terre, dont on a parlé au début de cette émission, à quelque chose de matriciel. C'est peut-être ça le rite, c'est finalement de retourner à quelque chose de matriciel. Et vous en parlez très souvent de cette idée que il faut recréer cette matrice de laquelle on va renaître.
C'est vraiment exactement cela. Je pense que c'est une question de grossesse. Nous avons parlé d'accouchement tout à l'heure. Mais mettre la mort au monde, il ne faut pas oublier tout ce qui précède. Il ne faut pas oublier la portée, la grossesse. Et c'est vrai que dans les meilleurs jours, je regarde mon église comme étant capable peut-être, ou en tout cas, je l'appelle de toutes mes forces à porter ces questions difficiles, mais en même temps joyeuses, à être capable d'être grosse d'une parole qu'elle aussi doit mettre au monde, et pas seulement pour elle-même, et pas seulement pour les siens, mais pour la société tout entière. Et c'est ce que je crois que François, le pape, a compris, c'est qu'il avait peut-être une parole à offrir humblement au-delà de sa propre institution. Dans le fond, mon livre, d'une certaine manière, et François n'est pas là par hasard, c'est aussi une façon de rendre hommage aux périphéries, hein, puisque ce mot est tellement à la mode.
C'est sûr. Et alors, justement, vous avez employé plusieurs fois le mot « célébrer ». C'est vrai qu'on dit du prêtre qu'il célèbre la messe, on célèbre un mariage, et vous proposez que finalement, on célèbre tous les événements de notre vie, y compris celle de la mort. C'est-à-dire, vous faites entrer tous les événements majeurs et importants qui implique soi-même et les autres, d'ailleurs, c'est toujours relationnel, cette affaire, eh bien, entre dans une sorte de, dans ce que vous percevez comme étant une célébration universelle de la vie.
C'est très, très vrai. Et il ne faut pas être prêtre pour cela. Donc, là où je travaille, y compris dans la clinique où j'interviens, j'insiste pour que si un médecin, si une infirmière, si un proche d'un patient se sente capable de présider une liturgie de dernier adieu, de grâce qu'ils y aillent. Et moi, je veux même bien les former. Et tout récemment, une magnifique nouvelle qui m'est arrivée, c'est qu'une institution laïque au sens philosophique, m'a demandé de préparer des bénévoles à aller faire une célébration à domicile, dans les maisons particulières, là où quelqu'un demandait l'euthanasie. C'est assez inouï quand même, ce qui prouve que la célébration est quelque chose qui traverse les frontières. Et ceux qui en masse ont le plus réagi à mon livre, ce sont les médecins généralistes, qui m'ont dit merci de ne pas nous laisser seuls. Nous sommes là devant une question extrêmement difficile. Donner l'euthanasie à quelqu'un que nous accompagnons depuis 20 ans et qui nous est si proche, comment mettre fin à cette existence-là? Ne nous laissez pas seuls, construisez quelque chose pour que nous, médecins généralistes, avec la famille, avec le patient, nous allions au-delà du simple geste. Donc c'est très beau tout ça, c'est très bouleversant pour moi.
Oui, d'ailleurs, vous citez, justement, vous dites que ça traverse les frontières, vous citez un poème de François Cheng que je voudrais partager avec nos auditeurs parce que c'est vrai que c'est très beau, c'est un poème sur la célébration, ce poème que vous faites vôtre, en fait, dans votre pratique de l'accompagnement. Et voici ce que dit François Cheng. Célébrer ce qui jaillit d'entre nous tant encore vers la vie ouverte, ce qui, d'entre les chairs meurtries, crie mémoire. Ce qui, d'entre les sangs versés, crie justice, seule voie en vérité où nous pourrions encore honorer les souffrants et les morts. Célébrer l'au-delà du désir, l'au-delà de soi, célébrer l'aube des noms réinventés, célébrer le soir des regards croisés, célébrer la nuit au visage émacié, des mourants qui n'espèrent plus rien, mais qui attendent tout de nous.
C'est peut-être, parmi les poètes, un de ceux qui m'a le plus accompagné, qui m'a le plus marqué, qui est vraiment quelqu'un qui me bouleverse, qui retourne ma chair intérieure, François. Je peux dire François parce que nous sommes ensemble chez Albin Michel, on est très proches.
Et c'est à nouveau un François.
C'est à nouveau François. Il a écrit quelque chose de magnifique sur Assise. Bien sûr. Tout petit texte qui est très, très, très étonnant. Et déjà dans Ceci est ton corps, je le cite... Tellement il m'a aidé, François, à accompagner cette femme. Et voilà qu'il revient. Il n'y a pas de secret.
Oui, et il a aussi publié, il y a 2 ans, si je ne m'abuse, ces magnifiques 5 méditations sur la mort.
Ah, tout à fait.
C'est-à-dire sur la vie, ajoute
le
titre.
Oui, nous sommes au cœur, là.
On est au cœur du sujet. Mais je voudrais, on a parlé de l'accompagnement dans la mort, mais vous êtes aussi, et peut-être surtout... Un accompagnant d'avant la mort. Et cette célébration, ce rituel, en réalité, commence en amont, commence longtemps avant que la personne décède, en réalité. D'ailleurs, vous nous dites très souvent qu'une fois que la personne a pu entendre qu'elle pouvait aller à l'euthanasie, en fait, elle meurt de sa belle mort avant. Ça, c'est très frappant. Ça m'a frappé dans plusieurs des témoignages, des personnes qui, une fois que vous leur avez, entre guillemets, autorisé l'idée même de l'euthanasie, eh bien, ils meurent de leur belle mort avant même qu'on ait à faire ce geste.
Vous avez tout à fait raison, et je vous assure, en employant un mot affreux, statistiquement, c'est très réel.
Oui.
Pas seulement dans ma propre expérience. En fait, la demande d'euthanasie, on doit regarder ça sociologiquement, est très importante. La pratique l'est très peu. Et quand on accepte, ce qui est le cas là où je travaille, dans la clinique Saint-Pierre, tout près de l'université de Louvain, lorsqu'on accepte que l'hypothèse de l'euthanasie soit possible, que ça puisse être entendu, qu'il arrive qu'on se trouve devant le mur, dans l'impasse, et qu'on le dise, eh bien, je me rends compte, de manière très très remarquable, que cette écoute inconditionnelle, sans jugement, et où on donne notre parole,
Et oui, votre amour aussi.
Notre amour, notre parole, par exemple la petite sœur carmélite dont je raconte l'histoire et où et son médecin généraliste et moi-même où lui avons dit « Oui, sœur Claire, nous entendons vraiment votre demande et si c'est nécessaire, nous vous rejoindrons jusque-là », ça crée un tel choc, ça crée un tel apaisement, une telle guérison par rapport à cette culpabilité, par rapport à ce déchirement, que beaucoup, en tout cas, quasi une fois sur deux, s'en vont sereinement, entre guillemets, naturellement. Ça doit vraiment nous faire réfléchir. Il y a, par exemple, beaucoup de suicides dans des maisons pour personnes grabataires qui sont liées à la non-écoute. Plus on écoute, plus la vie reste au rendez-vous. Ça me frappe beaucoup.
Oui, en fait, vous dites que vous donnez votre parole, mais je crois que vous donnez aussi, peut-être encore plus intensément, votre écoute, précisément, et votre présence physique. Et le corps est vraiment très présent dans votre texte.
Oui.
Vous nous expliquez que quand on accompagne quelqu'un qui souffre, qui est par exemple au point d'être dans une unité de soins palliatifs, eh bien, on ne peut pas l'accompagner que par des paroles. Et parfois, il ne faut même pas l'accompagner par des paroles, même pas par l'écoute, mais par l'écoute de son corps. C'est-à-dire entrer en relation, et vous en avez parlé au début de l'émission, avec ce qui fait sa concrétude d'être au monde.
C'est tout à fait vrai. Je prends un exemple, mais il y en a de multiples, de cette dame, 50 ans, qui a un cancer du visage. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est une tumeur de 10 à 12 centimètres en pleine face. Et donc, elle ne voit plus, elle ne sent plus, elle n'entend plus, il ne lui reste que le toucher. Et quand vous entrez dans la chambre, c'est atroce parce que c'est vraiment une odeur, je dis ça délicatement, de pourrissement. Mmh. Alors, je me suis assis sur son lit et pendant une demi-heure, je n'ai fait que lui prendre la main et pendant une demi-heure, elle m'a caressé. Et j'ai senti un fluide, j'ai senti que quelque chose de très très fort passait entre nous. Et j'ai même, enfin on peut en sourire, j'ai même dit à son mari, et je comprends qu'il était complètement perdu, il était en train de perdre son épouse à l'âge de 50 ans, je lui ai dit « vous devez beaucoup plus la toucher ». Elle ne peut plus communiquer que comme cela, elle en a extraordinairement besoin. Mais même quand on est un magnifique couple, devant cette situation, on est terriblement déconcerté, et on n'ose plus. Et donc, il faut franchir cette frontière, cette barrière, et je me dis qu'il faut peut-être que l'on se prépare à se toucher mieux. Et avec beaucoup de délicatesse, parce que je respecte aussi ceux à qui cela pose problème, tellement ça rejoint des choses profondes en eux.
Oui, d'ailleurs, c'est ce que aussi vous dites souvent, c'est que au fond, accompagner quelqu'un qui souffre et qui est en train de s'en aller, c'est d'une certaine façon s'accompagner soi-même, c'est-à-dire rejoindre les profondeurs de soi-même. Souvent, vous faites allusion à ça. Et finalement, il y a une absolue solitude dans la souffrance qu'on peut traverser par justement ces gestes de toucher. Et quand on traverse cela, l'autre n'est peut-être plus seul, mais soi-même non plus. On sort de la solitude. Soi-même non plus, on n'est plus seul.
C'est très 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 vrai. Je voudrais dire deux choses. D'abord sur la solitude, il y a un moment où l'autre, on ne peut plus le rejoindre. Bobin dit cela, enfin des tas de gens disent cela, et où il faut rester sur le seuil, même en étant dans la chambre et en tenant la main. C'est symbolique, rester sur le seuil. Ce n'est pas nécessairement laisser l'autre physiquement seul, mais savoir qu'il est en train de franchir une étape où là, ça ne nous appartient plus. C'est une terrible solitude pour celui qui part, mais c'est une terrible solitude et un formidable dépouillement pour celui qui reste. Et se convaincre, expérimenter que cette conjugaison des deux solitudes, c'est peut-être le sommet de la proximité, c'est aussi cela qui se passe en fin de vie, je trouve. Et qui est une fameuse mise au monde de soi-même. Quand on accompagne, on n'est jamais plus le même. Mais je l'ai dit dans un sens extrêmement positif. On grandit dans ce jamais plus le même.
Et d'ailleurs, vous expliquez dans les expériences que vous racontez que accompagner ceux qui meurent, c'est aussi important que d'accompagner ceux qui les accompagnent.
Oui, c'est ce que j'ai vécu dans ce que je raconte à propos de Ceci est ton corps, oui, et de cette femme que j'ai accompagnée. J'ai été vraiment bouleversé par l'équipe des soins palliatifs qui était presque aussi attentive à moi-même qu'à elle. J'avais l'impression que nous vivions une petite vie communautaire. J'ai même dit quelque part dans le livre, je crois, que nous étions dans un monastère, au sens le plus profane du terme, tellement ceux qui me rejoignaient avaient une formidable attention. Et si j'en reviens à cette question extrêmement délicate de l'euthanasie, maintenant que je suis passé du côté de l'accompagnement moi-même, nous avons exactement ce souci-là. Il y a le patient, il y a sa demande, il y a ses proches, il y a l'équipe soignante. Nous sommes là, chacune, chacun, tout entier. Nous ne sommes pas là simplement avec notre métier, notre technique. Nous sommes pleinement nous-mêmes. Et donc, comment va-t-on, entre guillemets, s'accompagner les uns les autres? C'est donc quelque chose qui se fait toujours à trois, l'accompagnement. Et c'est terriblement important que nous ne quittions jamais cette triade, qu'on isole jamais un accompagnement. Et ça, c'est une magnifique expérience. Vraiment, c'est très rare, hein, et c'est magnifique de vivre cela. Et quand on me demande, et notamment avec des jeunes, notamment avec des adolescents, que peut-on leur proposer de très grand, d'immense dans la vie, je leur dis souvent, le tour du monde, vous le ferez un peu plus tard. Venez avec moi dans une unité palliative. Et tous ceux qui ont fait cela en ressortent beaucoup plus grands et bouleversés, même quand ils ont 18 ans. Hein.
Beaucoup plus grands et sans aucun doute beaucoup plus humains. Merci beaucoup Gabriel Ringlet pour ce témoignage. Pour cet engagement, excusez-moi, je suis un peu émue, mais l'émission touche à sa fin, donc je dois maintenant donner la parole à Virginie Larousse, rédactrice en chef du Monde des Religions, notre partenaire, qui va nous parler d'un livre dont le sujet se rapproche du sujet du vôtre. Et après, Gabriel Ringlet, je crois que c'est vous qui nous parlerez d'un autre livre que vous avez beaucoup aimé sur ce sujet de la mort.
Avec un grand plaisir, hein.
Virginie Larousse,
bonjour,
la parole est à vous.
Alors écoutez, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un livre absolument magnifique qui est sorti dans la discrétion il y a quelques mois et dans la collection Point Vivre du Seuil et qui porte donc sur le douloureux sujet du suicide d'un être cher. Alors ce livre s'appelle « Devance tous les adieux » et il a été écrit par Ivy Edelstein qui signe là son premier livre. Alors, qui est Ivy Edelstein, me demanderez-vous? Bien malheureusement, je ne pourrais pas vous dire grand-chose de cet auteur, hormis qu'il habite en Bretagne et qu'il a 48 ans, parce que c'est un auteur qui écrit sous pseudonyme. En tout cas, il signe là un récit court et très lumineux, dans lequel il parvient littéralement à redonner vie par petites touches à son père, qui s'est suicidé lorsqu'Ivy Edelstein avait donc 18 ans. Et le portrait qu'il fait de ce père aimé et aimant est absolument bouleversant, je trouve, de justesse et de poésie. Alors bien sûr, le sujet est tout à fait dramatique, mais malgré cela, il n'y a pas de pathos dans ce livre, pas d'apitoiement, même si, de l'aveu de l'auteur, on ne fait le deuil que de ceux qu'on n'aime pas. Au fond, ce qui est singulier avec ce récit, c'est que dès que l'on arrive à son terme, en fait, on a envie de reprendre la lecture pour s'imprégner à nouveau de la poésie de ses mots, mais aussi de se laisser remuer par ses paroles qui sont absolument bouleversantes. Et l'on se dit qu'on aimerait, nous aussi, avoir un fils comme Ivy Edelstein, qui a su voir la beauté de son père par-delà la maladie dépressive et par-delà l'acte irréversible qu'il a commis. Les soirs d'été, je te cherche dans les cieux contaminés d'étoiles. Tu dois scintiller par ici. Si je ne dis pas ton nom, il sera retiré du grand livre de Dieu. Alors, très lentement, je dis ton nom. Tu scintilles, ça y est, je te vois tout là-bas. Comme tous les enfants de l'univers, je suis l'enfant d'une étoile.
Merci beaucoup, Virginie. Gabriel Ringlet, vous vouliez nous parler d'un livre qui réunit des témoignages sur la question de la mort.
Oui, c'est vrai. C'est le livre de Damien Le Guay et de Jean-Philippe de Tonnac, qui s'intitule « Les morts de notre vie ». Alors, ils ont interviewé sept personnages, Juliette Binoche, Christian Bobin, Catherine Clément, Philippe Labro, Daniel Mesguich, Edgar Morin, Amélie Nothon, rien que cela. Alors, je trouve que Juliette Binoche dit des choses qui, moi, m'ont vraiment retourné, y compris dans des anecdotes légères, hein, quand elle était petite fille et qu'avec une cousine, elle allait dans les cimetières et elle voulait que tous les morts soient à égalité. Alors, elle prenait des fleurs dans la prairie voisine et elle mettait des fleurs sur chaque tombe en veillant à ce que les couleurs soient harmonisées et que chaque mort ait autant de fleurs. Donc, je trouve ça formidable de la part de nos deux auteurs d'avoir pu faire parler ces grands témoins de manière aussi concrète à propos de leur mort.
Oui, et ce que vous faites aussi, vous, tous ces écrivains, tous ceux qui méditent sur cette renaissance qu'est la mort, au fond, il s'agit de fleurir les tombes.
Voilà, c'est peut-être le mot « fleurir » qui nous réunira.
Et absolument, et comme c'est la Toussaint, c'est absolument normal de fleurir les tombes de nos morts. Merci Virginie Larousse, merci Gabriel Ringlet d'être venu une deuxième fois aux Racines du Ciel. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, « Vous me coucherez nu sur la terre nue, l'accompagnement spirituel jusqu'à l'euthanasie », publié chez Albin Michel. C'était Les Racines du Ciel, une émission de Lélie Anvard. La semaine prochaine, nous serons reçus par Jean Vanier, fondateur de l'Arche, dans le lieu même où il accueille les personnes les plus fragiles. Ce sera un nouveau volet de la série Grand Témoin. Il est temps maintenant de retrouver Frédéric Lenoir pour ses chemins de sagesse.
Ce que nous avons vu la semaine dernière avec Épicure, c'est qu'au fond, être heureux, c'est apprendre à choisir. Et c'est ce qu'Épicure nous montre à travers le plaisir. Les plaisirs doivent être discernés. Épicure nous dit qu'il n'y a pas de bonheur sans plaisir, mais ce qui fait la différence entre le bonheur et le plaisir, c'est justement que les plaisirs sont discernés. Nous exerçons notre jugement, nous exerçons notre intelligence, notre raison, afin de discerner quels sont les plaisirs qui sont bons pour nous, qui sont appropriés, quels sont les plaisirs qui ne sont pas appropriés. Et j'irai un peu plus loin que ce que dit Épicure. Je dirais que c'est pas simplement choisir et discerner les plaisirs. C'est aussi choisir et discerner ce qui est bon pour nous de manière générale dans la vie, c'est-à-dire quelle activité mener, quel type de vie affective, quel type de choix de vie affective faire. Est-ce que je suis fait pour me marier, avoir des enfants ou pas? Est-ce que ma sexualité est hétérosexuelle ou homosexuelle? Est-ce que j'ai envie d'avoir une activité artistique ou une activité qui me porte plutôt vers l'efficacité managériale ou une activité manuelle ou... Et donc, c'est les choix qui engagent notre vie. Et je crois qu'on pourrait dire que c'est une autre dimension du bonheur qui est très importante, c'est le sens qu'on donne à sa vie. Et quand je parle de sens de la vie, je ne l'entends pas au niveau métaphysique, c'est pas le sens ultime qu'on donne à sa vie. C'est simplement donner une direction à sa vie, au sens premier du terme, et donner une signification dans le sens où on va préférer quelque chose plutôt que autre chose. Et donc là, on touche au domaine des valeurs. À partir du moment où on va hiérarchiser ces valeurs, il y a beaucoup de valeurs importantes, des valeurs éthiques fondamentales, l'amour, la liberté, la beauté, la justice, le bonheur, on peut considérer que c'est une valeur, mais qu'est-ce qu'on va privilégier? Qu'est-ce qu'on va mettre devant? Quel ordre on va mettre? Et là, dès qu'on donne du sens à sa vie, dès qu'on privilégie naturellement une valeur par rapport à une autre. Et donc, si on décide, par exemple, de s'engager dans le mariage, eh bien, on sait qu'on va privilégier la famille, et du coup, on perdra en liberté. Si au contraire, on décide de vivre une vie de nomade célibataire, on privilégie la liberté par rapport à l'amour, par rapport à des engagements affectifs. Ce qui fait que ce choix, c'est un choix du sens. C'est pas simplement un discernement de plaisir. Et c'est pour ça que je dirais que dans les choix de vie qu'on a à faire, Il y a à la fois des choix qui sont liés au discernement des plaisirs quotidiens et des choix qui impliquent beaucoup plus une durée, des engagements. Et la question du sens, elle nous engage. Elle est liée à nos engagements. C'est qu'est-ce que nous privilégions, dans quoi nous nous engageons. Et à partir du moment où on s'engage dans un chemin, on renonce à autre chose. Et le bonheur est fondamentalement lié à cette idée de renoncement. On est capable de faire des choix, on ne peut pas tout avoir. Et une fois qu'on a compris ça, on est heureux parce que, du coup, on s'engage dans une voie qui nous convient. Évidemment, il est très important de discerner. Il ne faut pas le faire pour des raisons extérieures à nous-mêmes. Il peut y avoir des gens qui s'engagent pour des raisons morales, parce qu'ils ont reçu telle éducation, on leur dit c'est bien de faire ça, alors que ce n'est pas conforme à leur nature. Et là, on touche à quelque chose de très important, c'est qu'il faut arriver évidemment à discerner ce qui est bon pour nous. Ce qui est bon pour nous n'est pas forcément bon pour un autre. Si je suis appelé à exercer une activité intellectuelle, peut-être qu'un autre aura besoin d'exercer une activité manuelle. Et donc, il est très important pour pouvoir bien s'engager de se connaître. Et on arrive à la notion, là on va retrouver Socrate de manière cette fois positive par rapport au bonheur et pas critique, c'est qu'il faut se connaître soi-même. C'est que la connaissance de soi, c'est le début de la sagesse. Parce que lorsqu'on se connaît, lorsqu'on apprend à savoir qui nous sommes vraiment au-delà de tout ce qui nous a constitué, à travers l'héritage familial, à travers l'éducation qu'on a reçue, à travers la culture, à travers les croyances, la religion qu'on a reçue, tout ça c'est très bien. On ne peut pas vivre si on n'a pas reçu des valeurs, si on n'a pas reçu un héritage culturel. Et en même temps, à un moment donné, il faut apprendre à le discerner. Il faut apprendre à faire ce que Jung appelle le processus d'individuation pour arriver à savoir qui nous sommes vraiment et ce qui nous convient. Et donc faire un tri à l'intérieur de tout cet héritage qu'on a reçu familial, culturel, religieux, pour voir ce qui est juste pour moi, ce qui est approprié et ce qui va me permettre vraiment de grandir, de m'épanouir en tant qu'être humain de la meilleure manière possible. Et donc, ce discernement par rapport aux valeurs va me permettre de trouver un sens à ma vie. Et ce sens peut évoluer. Je peux donner un sens à ma vie à 20 ans et à 40 ans, un autre. Je peux me réorienter, je peux évoluer. Mais ce sens permet d'avoir un engagement. Et il y a un philosophe, psychologue et philosophe contemporain qui a beaucoup parlé du sens, c'est Viktor Frankl. Et Viktor Frankl était déjà opposé à Freud sur cette idée que le plaisir n'est pas tout, mais qu'un autre fondement essentiel de l'existence, c'est le sens qu'on donne à sa vie. Et c'est ainsi qu'il soignait ses patients. Et puis, il a vécu une tragédie. Viktor Frankl a été dans les camps de concentration. Et quand il est sorti des camps, il a dit que l'expérience des camps n'a fait que confirmer ce que j'avais pressenti, puisque dans les camps, il n'y a aucun plaisir. Et ceux qui ont le mieux survécu, ceux qui ont survécu et ceux qui ont pu survivre sans être brisés, sans être anéantis, c'est ceux qui avaient déjà un sens à leur vie. C'est ceux qui avaient déjà des valeurs fortes, c'est ceux qui avaient déjà des engagements forts, c'est ceux qui avaient des croyances profondes. Et à ce moment-là, ceux-là ont pu mieux tenir que les autres. C'est ce qu'on a vu avec ce témoignage bouleversant d'Itil Soum, qui dans une vie bouleversée, dans ses lettres qu'elle a envoyées de Westerbork, ce camp de transit avant d'aller mourir à Auschwitz, où elle disait « Ma vie est déjà pleine de sens et ce ne sont pas mes bourreaux, les nazis, qui vont m'enlever cet amour de la vie et la joie qui est en moi. » Donc le sens, c'est vraiment quelque chose qui me paraît très essentiel pour cette question du bonheur, et c'est ce que confirment aujourd'hui les enquêtes sociologiques. Lorsqu'elles font des enquêtes sur des milliers de personnes, les sociologues nous disent les deux choses les plus importantes qui reviennent pour une vie heureuse, c'est avoir du plaisir et avoir du sens.
Je rappelle que cette émission est podcastable pendant un an et réécoutable pendant 1000 jours. Dans quelques instants, le journal de la rédaction de France Culture. Et je vous souhaite, quant à moi, un très bon dimanche.